à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique, ici à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football oppose le Sénégal à l'Algérie à 19h temps universel. Yacouba Ouédraogo sera avec nous pour ouvrir ce journal. Également à la une de l'actualité, au Soudan, report des discussions sur l'accord de partage au pouvoir. Au Burkina Faso, l'émotion est toujours vive, 4 jours après le décès de 11 personnes dans les locaux de la police. Demain, le 20 juillet, c'est le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune. Mais tout de suite, comme je l'annonçais, le journal de la CAN avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. C'est le grand jour, on connaîtra tout à l'heure le successeur du Cameroun, vainqueur de la CAN 2017 au Gabon. La finale de cette première édition à 24 équipes a lieu tout à l'heure au stade international du Caire. L'Algérie attend un deuxième sacre continental depuis près de 30 ans. Le Sénégal, lui, n'a pas encore une seule étoile à son palmarès dans cette compétition et joue sa deuxième finale de CAN 17 ans après. Pour parler de ce choc, direction tout de suite à la capitale égyptienne pour retrouver Hamdi Nassi, notre correspondant à Dakar, présentement au stade international du Caire, où se joue cette finale. Hamdi, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévaut au stade à quelques instants du coup d'envoi de cette finale Algérie-Sénégal?
Il faut dire Yacouba, il y a une très belle ambiance dans ce stade international du Caire. Contrairement aux autres rencontres où le peuple égyptien ne s'était pas déplacé, aujourd'hui, il y a quand même du monde. J'estime presque à 50 à 60 000 spectateurs. En tout cas, les Algériens, surtout les supporters algériens, ils sont en train de mettre l'ambiance de feu. On dirait que l'Algérie aujourd'hui joue à domicile. Ils sont nombreux à pousser leurs équipes. Ils ont mis l'ambiance dans ce stade et on s'attend à une belle finale. Une finale inédite entre le Sénégal qui court derrière son premier sac et l'Algérie qui veut quand même gagner ce trophée pour la deuxième fois de l'histoire après celui gagné en 90.
Alors Hamdine, est-ce qu'on connaît les 11 des départs algériens et sénégalais?
Pour le moment, on n'a pas encore quand même la composition officielle du Sénégal et de l'Algérie puisque on attend d'un moment à l'autre, ça va tomber. Mais pour le Sénégal, ce changement de dernière minute, il y aura le 11 de départ qui a éliminé la Tunisie à l'exception de Kalidou Koulibaly qui est suspendu pour cumul de carton. Il sera remplacé sans doute par Salif Sané et au niveau de l'attaque, Crépin va céder sa place à Ismaël Sarr qui était blessé. Donc dans les buts, on aura Alfred Gomis de gauche à droite, Lamine Gassama et Usabali. Dans l'axe, on aura le capitaine Cheikh Kouyaté et il aura à ses côtés Sané. Au milieu de terrain, le tri dans Pape Aline Ndiaye, Henri Sévé et Idrissa Gueye. En attaque, on aura le futur Ballon d'Or ou celui qui combat le futur Ballon d'Or, Sadio Mané, et sur les côtés Mbaye Niang et Ismaël Sarr Yacouba.
Merci bien Hamdi Nassi depuis le stade international du Caire où se joue donc cette finale de la 32e édition de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal. On va vous retrouver dans nos prochaines éditions. Les Lions de la Teranga n'ont essuyé qu'une seule défaite dans cette CAN et c'était face au même Fennec. Vainqueur 1-0 en phase de poule, pas de quoi faire peur au coach sénégalais et ses poulets. On écoute Aliou Cissé.
C'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre truc historique. Nous sommes en finale déterminés à la gagner, tout simplement.
Cette finale a aussi un goût particulier pour deux sélectionneurs, Djamel Belmadi de l'Algérie et Aliou Cissé du Sénégal, tous nés en 1967 à un jour d'écart à Belmadi à Champigny et Cissé au Sénégal avant de rallier la banlieue parisienne à l'âge de 9 ans. Plus tard, Belmadi est parti se former au Paris Saint-Germain, Cissé à Lille. Cette opposition continue cette fois-ci en terre africaine et en tant que coach, Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.
C'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. C'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver, nous deux, à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier.
Cette finale Algérie-Sénégal fait bien évidemment l'objet du coup de sifflet de Jules-Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
de tout temps, les finales n'ont jamais été des matchs comme les autres. Même lorsque les équipes qui la disputent se sont déjà affrontées en début de compétition, comme c'est le cas pour ce Sénégal-Algérie, dont la première manche en phase de poule a vu les Tunisiens dominer aisément les Lions du Sénégal. Au contraire, dans de telles circonstances, le vainqueur du match précédent resserre ses boulons et le sort de la finale obéit à un scénario nouveau. Soit de la CAN est riche de situations diverses. Le Congo-Kinshasa, battu par le Ghana en phase de poule, prit sa revanche en finale à Addis Abeba en 1938. Par contre, l'Algérie puis l'Égypte, facile vainqueur respectivement du Nigeria en 90 et du Cameroun en 2008, confirmèrent leur victoire en finale, mais à l'arraché. Le plus grand renversement de situation de tous les temps est à mettre au profit de l'Allemagne face à la redoutable équipe de Hongrie de Ferenc Puskás, laminée en poule par le score sans appel de 7-3. Elle gagna la Coupe du Monde 1954 devant le même adversaire avec la complicité de la météo. Score final, 3-2, le hold-up du siècle. Alors, au niveau des forces en présence, que nous réserve cette finale? Certains dans le camp sénégalais s'inquiètent de l'absence du défenseur central Koulibaly suspendu. Ils se rappellent qu'au contraire, cela peut motiver son remplaçant en quête de reconnaissance. Cette absence peut aussi amener le coach Alioune Cissé à adopter un dispositif de contre avec marquage haut plus efficace lorsqu'on rencontre une équipe créative comme celle d'Algérie. L'impact physique pendant les duels pouvant dérégler la machine offensive algérienne et la faire retomber dans ses travers traditionnels, en particulier la nervosité. En attendant, trêve de précipitation et place à la réalité du terrain. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour le journal de la CAN.
Et dans le reste de l'actualité africaine, les Algériens sont descendus dans la rue aujourd'hui pour la 22e semaine consécutive. Après la grande prière du vendredi, au milieu d'un impressionnant dispositif policier, de très nombreux manifestants, certains vêtus des maillots de l'équipe nationale, ont afflué comme chaque semaine aux alentours de la Grande Poste. Au Soudan, l'armée et les meneurs de la contestation ont conclu cette semaine un accord crucial sur le partage du pouvoir. Toutefois, une rencontre prévue aujourd'hui pour discuter des points en suspens a été reportée. Abdourahmane Dia.
Un dirigeant de la contestation a indiqué qu'il faut davantage de consultations pour parvenir à une position unifiée. Omar El Deguir a souligné qu'il y avait des réserves exprimées par trois groupes rebelles sur l'accord et n'a pas donné de nouvelles dates pour la poursuite des discussions. La contestation et le pouvoir militaire sont parvenus mercredi à un accord sur la formation d'un gouvernement souverain composé de 5 militaires et 6 civils qui va diriger pendant un peu plus de 3 ans la transition. Quelques questions doivent être résolues avant l'accord final. Il s'agit principalement de l'immunité pour les généraux. Le Conseil militaire insiste pour que les représentants de l'armée dans le futur Conseil souverain bénéficient d'une immunité totale dans les dossiers liés à la répression des manifestations. Les membres de la contestation s'opposent catégoriquement à cette demande, évoquant simplement la possibilité d'une immunité temporaire limitée au temps de leur mandat dans l'instance de transition.
En Éthiopie, 4 personnes ont été tuées par balle à Hawassa dans le sud du pays. La région est le théâtre de manifestations depuis jeudi dernier de membres de l'ethnie Sidama qui réclament la création d'une région autonome. Jacob Zuma refuse de coopérer avec la justice. L'ex-président a mis fin aujourd'hui à sa coopération à une vaste enquête sur la corruption en Afrique du Sud pendant son mandat. Il se dit victime de parti pris. Bagassikoura.
Zuma, âgé de 77 ans, témoignait depuis lundi devant la commission chargée de faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont éclaboussé sa présidence de 2009 à 2018 et qui l'ont contraint à la démission il y a un an et demi. Mais mercredi, la commission avait suspendu l'audition de l'ex-président, son témoin numéro 1, qui s'est plaint du ton à ses yeux trop insistants des questions qui lui sont posées. Il devait être entendu ce mercredi pour une dernière journée si un compromis avait été trouvé sur les modalités de l'audience, ce qui ne s'est pas produit. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que nous ne participerons plus à cette procédure, a déclaré un des avocats de Zuma, Moussi Sikakane, devant la commission d'enquête siégeant à Johannesburg. Sur le fond, l'ex-chef de l'État a nié toute implication dans les affaires de corruption citées. Le juge président de la commission, Raymond Zondo, a regretté le retrait de l'ex-président et défendu la procédure en cours.
République démocratique du Congo, face à l'épidémie de fièvre Ebola, un haut responsable de la santé de l'Union africaine a mis en garde contre d'éventuelles restrictions au voyage vers la RDC ou en provenance de ce pays. Une telle mesure entraverait, selon lui, leur capacité à contrôler efficacement le virus. Au Nigeria, 6 personnes sont portées disparues depuis une attaque de convoi hier sur la route entre Maïdougouri et Damasak, dans le nord-est du pays. L'ONG Action contre la faim a précisé qu'un de ses employés fait partie des personnes portées disparues.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Téhéran a catégoriquement démenti aujourd'hui les propos de Donald Trump selon lesquels un navire américain a détruit un drone iranien. Plus de précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Allégation délirante et sans fondement a réagi vendredi le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Abdul Fazl Shekarchi. Tous les drones sont bien rentrés à leur base, a-t-il ajouté. J'ai peur que l'US ex-boxeur ait abattu un de leurs propres drones par erreur, a écrit pour sa part le ministre adjoint des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sur Twitter. Les gardiens de la révolution indiquent qu'ils vont publier bientôt des photos de l'engin américain prises par un de leurs drones. Le président des États-Unis avait affirmé qu'un navire américain a détruit au-dessus du détroit d'Ormuz un drone iranien qui s'approchait dangereusement et que l'appareil a été détruit immédiatement. Le Pentagone a fait état d'un incident survenu entre le bateau américain et un drone qui s'était approché à une distance menaçante sans préciser à qui appartient cet appareil sans pilote.
En Irak, un drone a bombardé une base de paramilitaires pro-Iran au nord de la capitale Bagdad, tuant un combattant irakien et blessé 2 Iraniens. Ce bombardement intervient sur des tensions entre les deux grands alliés de l'Irak qui sont les États-Unis et l'Iran. Une vague de chaleur avec des températures jusqu'à 43 degrés Celsius s'est abattue sur l'est et le centre des États-Unis. Les autorités ont lancé des alertes à la canicule, conseillant aux Américains de rester au frais pour se protéger face à ces chaleurs excessives. Des précisions avec Dilly Dico.
Ce mois de juin a été le plus chaud ces 140 dernières années, selon l'administration américaine des océans et de l'atmosphère. L'agence ajoute qu'il est très plausible que le mois de juillet suive la même tendance. De vendredi à dimanche, l'Est et le centre des États-Unis vont connaître des températures pouvant atteindre 43 degrés Celsius. Les autorités exhortent les habitants à rester au frais, ne pas laisser les enfants dans les voitures et s'assurer que les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé ne sont pas exposées à cette vague de chaleur. Bill de Blasio, le maire de New York, appelle à prendre très au sérieux ces alertes à la canicule. Jim Hayes, de l'Agence météorologique nationale, dit que le plus préoccupant, c'est la combinaison de chaleur extrême et d'humidité. La fraîcheur devrait cependant revenir tard dimanche pour faire descendre le mercure à des températures plus raisonnables, entre 29 et 32 degrés Celsius.
Le président Donald Trump a attaqué la couverture médiatique qu'il a qualifiée de « dingue ». Les cris proférés par une centaine de ses partisans contre une élue démocrate d'origine somalienne. Monsieur Trump a dénoncé l'alliance malsaine des médias avec ses opposants démocrates. En Chine, au moins 2 personnes ont été tuées, 18 autres blessées et 12 ont disparu dans une énorme explosion d'une usine de gaz dans le centre du pays. Et puis en Grèce, un séisme de magnitude 5.1 a secoué Athènes, entraînant des dégâts et des perturbations sur les lignes téléphoniques. Effrayés par la secousse, un vent de panique a été sur toute la ville. Néanmoins, aucune victime n'a été recensée. Les habitants et les touristes se sont rués hors de leurs habitations, hors des magasins et des grandes maisons. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le président Donald Trump est sous le feu des critiques pour avoir attaqué verbalement quatre femmes démocrates élues au Congrès. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a voté un texte condamnant certains commentaires du président qualifiés de racistes. Ce qui relance un débat animé aux États-Unis sur la race et l'immigration. Reportage Jim Malone, le récit est de Blanche Sanou.
Devant une foule enthousiaste en Caroline du Nord, le président Trump a lancé une nouvelle attaque contre quatre démocrates au Congrès, toutes des femmes issues de la minorité.
Mais ces idéologues de gauche voient notre pays comme une force du mal. La façon dont ils parlent si mal de notre pays. Ils veulent démolir notre constitution, affaiblir notre armée et éliminer les valeurs qui ont construit ce magnifique pays.
Devant l'Assemblée, le président a ciblé Ilhan Omar, membre du Congrès du Minnesota, et le public a réagi devant ses propos en scandant. Selon les sondages, la victoire du président Trump en 2016 a été stimulée par le soutien des électeurs blancs de la classe ouvrière. Mais beaucoup de démocrates, y compris le membre du Congrès Tom Malowski, pensent que le président frôle la catastrophe en essayant d'obtenir un soutien basé sur le ressentiment racial.
Ces mots ne sont pas que des mots. Ils sont comme de l'essence qu'on pulvérise sur des étincelles dans des esprits perturbés.
Une accusation dont le président a réfuté, tout en continuant à attaquer violemment les quatre élus démocrates, en les exhortant à quitter le pays si elles étaient malheureuses. Même si certains républicains se sont plaints de ces attaques, beaucoup d'autres soutiennent le président, y compris le sénateur John Kennedy.
Ce n'est pas la Chine et ce n'est pas la Corée du Nord. C'est l'Amérique et si vous détestez notre pays, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez.
Beaucoup d'élus démocrates dénoncent ouvertement les opinions du président Trump. Parmi eux, le député Dean Phillips.
Si le racisme devient une question partisane dans ce pays, cela nuira au travail qu'ont accompli nos fondateurs. C'est mal agir envers notre Constitution et envers toutes ces personnes pour qui l'Amérique représente un chez-soi.
Les remous politiques de ces dernières semaines présagent, selon certains analystes, une campagne présidentielle des plus instables.
Kabadou avec vous et on se donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive, une heure avant la finale de la CAN 2019. Quels sont vos pronostics? Quelle est votre équipe favorite? Et pourquoi? Et est-ce que la CAN est une réussite selon vous? Pour participer, n'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone sur notre page Facebook VOA Afrique ou appeler en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
La mission du programme spatial américain en cours de laquelle l'homme a posé ses pieds sur la Lune pour la première fois est racontée en Guinée aussi bien par les anciens, témoins de l'événement, que par des jeunes qui nourrissent de l'espoir pour le monde. Notre correspondant Zakaria Camara est allé à la rencontre des Guinéens de Conakry. Écoutez ce qu'il raconte.
Le grand succès d'Apollo 11 reste inoubliable pour Paul Albert Camara. Le septuagénaire raconte son souvenir des premiers pas de l'homme sur la Lune.
J'étais instituteur à Fangé, un vieux qui est voisin à l'école où j'enseignais. Je ne sais pas s'il vit encore. Il s'est prononcé ouvertement que c'est faux. C'est faux de cesser de raconter ça. Un homme ne peut pas poser son pied sur la Lune de Dieu. Ce n'est pas vrai.
L'homme sur la Lune, comment ? S'interrogeaient certains Guinéens selon l'ancien instituteur. D'autres comme Adiato Rodo, cette grand-mère qui faisait partie des 600 millions de personnes qui ont suivi l'événement, avait un sentiment de fierté.
Je faisais ma formation militaire en ce moment, mais j'ai bien suivi l'atterrissage de cet engin-là. Quand l'engin est a atterri. Ils ont ouvert la porte. Donc, quand il est sorti, le commentateur a dit, il dit oui, pour la première fois, l'homme a mis son pied sur la Lune. J'étais très jeune en ce moment, mais j'étais fière.
À 72 ans, Elhadj Sékou Mamadi raconte avoir suivi le programme spatial américain à Dakar. Il nous explique que lui avait une autre explication de la mission.
Mon ressentiment, c'était l'exploit extraordinaire de l'homme, vu la force de l'attraction terrestre sur les corps en chute libre, vu la propulsion de la fusée pour atteindre la Lune et que l'homme puisse sortir de la fusée pour marcher sur la Lune. Quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, ça a été un exploit extra-humain.
Dans la capitale, les jeunes qui ont accepté de s'exprimer au micro de la Voix de l'Amérique parlent d'espoir pour l'humanité.
C'est vraiment une avancée technologique, c'est vraiment une avancée pour l'évolution du monde actuel et du futur aussi.
La Lune qu'on voit tout petit dans l'espace comme ça, donc qu'un homme monte là-bas, ça a peut frapper ma conscience comme quoi l'homme est capable de tout.
Ça c'est une fierté déjà d'explorer l'espace au-delà de notre planète. Et déjà ça apporte un plus dans le développement et dans les avancées des recherches.
Apollo 11 a suscité la curiosité chez de nombreux jeunes Guinéens. Ils veulent maintenant savoir si un jour, l'homme pourra vivre sur la Lune. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Bonsoir, Abdourahman Dia avec vous dans l'Amérique et vous ce soir à 19h temps universel. Ce sera pour parler du 50e anniversaire d'Apollo 11. Il y a un demi-siècle, un homme marchait sur la Lune. Cet événement historique marquait un développement majeur dans les sciences spatiales. Aujourd'hui, de la lutte contre la désertification aux télécommunications, en passant par la défense, beaucoup de secteurs liés à notre vie de tous les jours sont étroitement liés aux sciences de l'espace. Le président Trump a lui annoncé la création d'une force spatiale. Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Les États-Unis célèbrent donc ce 20 juillet 2019 le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune, un événement qui a bouleversé le monde et les Tchadiens s'en souviennent comme si c'était hier. André Komajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
L'expédition spatiale de 1969 a été un événement majeur pour toute l'humanité. Les Tchadiens se rappellent de cet homme dont les premiers pas sur la Lune ont bouleversé le monde. Pour beaucoup, c'est un miracle. L'Aldjim Narcisse avait à l'époque un an et demi. Aujourd'hui, il est journaliste à N'Djamena.
Moi, je n'ai pas vécu l'événement, mais j'ai appris à travers la presse, surtout les journaux, qui ont largement fait écho de cet événement. Parce que Neil Alden Armstrong, il est connu pour sa célèbre phrase intitulée « C'est un petit pas pour un homme, mais c'est un bond de géant pour l'humanité ». Cette phrase-là est encore d'actualité aujourd'hui.
Bernoudi Sosten, un autre jeune Tchadien, a appris cette histoire à l'école dans les années 80. Aujourd'hui, il est directeur artistique du festival Le Souffle de l'Harmattan.
Moi, c'était à l'école primaire. On a un livre intitulé L'école africaine. C'est dans ce livre-là qu'on a un texte qui parle de ce homme dans les années 80, début des années 90. Mais cela ne m'a pas dit grand-chose. Mais avec le temps, on a compris que c'est l'exploit de la science qui essaye de percer ce qui est insondable. Et chez nous ici, l'année où cet homme a marché sur la Lune coïncidait avec une épidémie de conjonctivite au Tchad. Et ceux qui ont cette maladie, on les appelle Apollo. Donc de façon vulgaire, on appelle ça même jusqu'aujourd'hui.
Docteur Mindomo Kolandi, ancien doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de N'Djamena, se rappelle encore de l'exploit.
En 1969, j'étais en sixième. Nous avions en cette période-là un professeur, un Américain qui s'appelle Hauska. Il nous a fait la projection au moment où Armstrong naît et allait sur la Lune. On l'a vu. Il a mis pied sur la Lune, il a tenté une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Il a senti que c'était solide. On l'a vu planter le drapeau américain. Pour nous, c'était une curiosité. Le côté scientifique, on ne l'avait pas encore senti. Je vais te rappeler qu'en 1969, lorsqu'on lançait l'appareil, il y a un Tchadien qui a été invité officiellement. Il s'appelle Maloum. Donc, ça a démontré la puissance américaine dans le monde.
Pour Ngarondé Djarma, infirmier diplômé d'État à la retraite, cet événement bouleverse le monde religieux.
Le
L'événement, on l'a vécu, surtout avec la tertiférie religieuse, on a eu beaucoup de problèmes. Pour eux, de la Lune, on ne peut pas atteindre. Chaque fois que la science découvre quelque chose, la religion s'inquiète. Parce que la science est devenue démentie pour elle. Alors que parmi les religieux, personne n'a rencontré un dieu au cours des repas. Nous, on a cru. S'il y a un Africain qui a siégé comme président des États-Unis, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, un Africain soit sur au-delà même de la Lune.
Aller au-delà de la Lune, c'est aussi le souhait de Bernoudi Sosten, directeur artistique du festival Le Souffle de l'Harmattan.
Le monde est tellement en concurrence que tout ce qui est africain est relégué au second rang. Je m'en vais vous dire, Toumaï par exemple a été découvert par un Tchadien. Mais aujourd'hui ce Tchadien, qui le connaît? On affiche le professeur Michel Bruno. Oh, Michel Bruno faisait partie de l'équipe paléontologique, mais c'est pas lui qui a découvert Toumaï. Non, c'est dommage, mais moi je crois que les Noirs sont capables de beaucoup de choses. Un jour ils peuvent non seulement faire une descente sur la Lune, mais pourquoi pas sur le Soleil.
André Kodima Dingar Ndjamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'était il y a 50 ans, les trois astronautes américains de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, atteignaient la Lune. Un anniversaire célébré en grande pompe aux États-Unis. Un demi-siècle après le premier pas de l'homme sur la Lune, le pays s'est fixé l'objectif de 2024 pour un retour. Mais il y a des doutes sur la viabilité du projet sans une drastique augmentation du budget de la NASA. Davantage avec Arzuma Compaoré.
Il y a 50 ans, la mission sur la Lune était à deux doigts d'échouer à cause d'un problème informatique, comme en témoignent ces échanges entre Houston et les astronautes. Neil Armstrong a alors pris le contrôle manuel du vol afin d'éviter les rochers sur la zone d'atterrissage, brûlant ainsi plus de carburant que prévu.
Quel est le niveau du carburant? Est-ce un bon endroit?
Des avertissements, 60 secondes de carburant, 30 secondes, avec moins de 20 secondes de carburant, jusqu'à ce que l'aigle allunisse. Après le pas de Neil Armstrong sur la Lune, a suivi l'un des moments les plus angoissants de la mission pour l'astronaute Mike Collins, resté en orbite lunaire dans la capsule principale Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre. Il n'y avait plus qu'une seule fusée à leur disposition et ils craignaient que cela ne fonctionne pas.
Nous savions que s'ils ne pouvaient pas redécoller pour une raison quelconque, je n'aurais rien pu faire. Columbia n'avait aucun train d'alunissage. Je n'aurais pas pu descendre pour les secourir. Je ne voudrais pas être à la place de la personne qui a laissé deux astronautes sur la Lune. Cela ne m'aurait pas plu du tout.
En fin de compte, celui qui semblait être le plus heureux de l'équipage n'était pas déçu lorsque les trois héros sont revenus sur Terre, sains et saufs.
Il y a tellement de choses qui auraient pu mal tourner, pourtant tout s'est bien passé. C'est ce que je garde de tout ceci. Tout s'est bien passé.
Joshua Stoff est conservateur au musée du berceau de l'aviation.
Le 50e anniversaire nous rappelle cette chose incroyable qui s'est produite en 1969. Ils ont construit un vaisseau spatial et une fusée qui ont amené les humains dans un autre monde et cela a créé un moment d'unification de l'Amérique et d'inspiration pour le monde. Si nous pouvons aller sur la Lune, cela veut dire que si nous voulons vraiment que quelque chose se réalise, nous pouvons le faire.
Après 1972, date de la dernière mission Apollo, seuls des robots sont retournés sur la Lune. En 2017, Donald Trump a relancé la conquête de la Lune et de Mars, qui prévoit le retour des Américains, dont la première femme, sur la Lune. La NASA est en train de construire la fusée la plus puissante de tous les temps, le Space Launch System, et une capsule baptisée Orion pour le retour des humains sur la Lune en 2028. Quant à Mars, une mission habitée est prévue dans les années 2030.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Zainab Abdelrahman. Au micro, Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau point sur l'actualité présenté par Henri Francisque, suivi d'À votre avis avec Ekiabadou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, les infos.